Poursuivre nos prédications dans l'épître aux Éphésiens. Donc, on touche à la fin de cette épître. Donc, la semaine prochaine, ça sera la dernière prédication sur le combat spirituel. Alors, dans cette section de la lettre que Paul a écrite à cette église à Éphèse, Paul nous montre ce que cela veut dire de marcher d'une manière digne de l'appel que nous avons reçu en Jésus-Christ, le fait d'être chrétien, quoi. Il emploie cette métaphore de la marche chrétienne à plusieurs reprises dans cet épître, et Paul veut nous montrer comment vivre pour le Seigneur dans la vie quotidienne. Alors, j'ai dû écrire un petit article cette semaine sur la Bible, sur son utilité, sa pertinence, pour aujourd'hui. J'ai commencé en disant que la Bible est comme le manuel d'instruction du Créateur adressé à ses créatures. Et ensuite, je l'ai comparé à une lettre d'amour d'un Père éternel qui nous a montré toute l'ampleur de sa grâce en Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous a déjà montré cette grâce extraordinaire dans la première moitié de cette épître aux Éphésiens. Et ensuite, j'ai dit dans ce petit article que pour le croyant, la Bible se présente aussi comme la parole par laquelle le roi divin règne sur nos vies, sur ses sujets. Dans la première moitié de cet épître, Paul nous a donné une vision haletante de la royauté divine de Jésus-Christ, un roi on ne peut plus exalter, un roi qui est profondément juste et bon. Et dans notre passage de ce matin, l'apôtre Paul nous montre comment vivre pour ce roi divin. Mais la parole du roi, la Bible, n'est pas simplement une loi à appliquer, un code à suivre, mais la parole du Seigneur Jésus est profondément transformatrice aussi. Par le Saint-Esprit, elle renouvelle notre intelligence et nous donne la puissance, la force, la motivation de vivre pour lui. La semaine dernière, cette parole nous a montré comment vivre pour lui dans le mariage. Et ce matin, notre passage nous montre comment vivre la grâce que Dieu nous a montrée en Jésus-Christ dans les domaines de la famille et le travail. Alors, c'est un passage très pratique qui veut changer notre optique, notre perspective, notre compréhension de la vie de famille et aussi notre vie professionnelle. Voilà, donc il y a deux grandes parties ce matin. Je vais simplement suivre un peu le passage tel qu'il se présente dans le texte. Donc, avec une première partie sur comment on peut servir le Seigneur en famille. Dans un deuxième temps, nous verrons ce que cela veut dire de servir le Seigneur au travail. Donc, servir le Seigneur en famille. Deuxièmement, servir le Seigneur au travail. Alors, la vie de famille est la seigneurie de notre bon et juste roi, Jésus-Christ. Relisons les trois premiers versets de ce passage. « Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. » C'est le premier commandement accompagné d'une promesse « afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Alors, c'est tellement évident que ça ne saute plus forcément aux yeux. Mais l'apôtre Paul parle aux enfants. Alors, cela veut dire qu'il les prend au sérieux. Et il s'attend à ce que les enfants soient là, à l'église, en train d'écouter l'enseignement de la parole. Et en cela, Paul ne suit pas la culture de son époque, parce qu'à son époque, il y avait un certain dédain, un certain mépris pour les enfants. Mais l'apôtre Paul suit Jésus-Christ, son Seigneur, qui avait dit à ses disciples, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Jésus montrait ainsi que nous devons recevoir le royaume comme un enfant, comme avec la simplicité, la foi d'un enfant. Mais aussi en parlant comme ça, Jésus nous montre la valeur qu'il accorde aux enfants. Ils ne sont pas des sous-êtres, mais des personnes à part entière. Et des personnes tout à fait capables d'entendre la parole et de vivre par la foi pour le Seigneur Jésus. Ailleurs, l'apôtre Paul nous dit que la foi vient en écoutant la parole et les enfants de chrétiens ont un privilège extraordinaire. Ils grandissent avec l'occasion d'entendre cette parole vivifiante, transformatrice, qui leur montre que Jésus le Seigneur de l'univers, ça c'est ce qu'on voit dans la première moitié de l'épître, est également leur sauveur, s'ils mettent la confiance en lui. Dans cette église qui est une église de type dite baptiste, même si le mot n'apparaît pas dans le titre de l'église, le signe de la foi, le baptême, est donné à tous ceux qui professent leur propre foi. Et on peut donner ce signe de la foi aux jeunes qui reconnaissent Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Après, ils peuvent participer publiquement à la scène. La Bible ne donne pas de règles pour stipuler à partir de quel âge un enfant peut donner une confession crédible de la foi. Une confession de foi qui n'est pas motivée par le désir de simplement plaire aux enfants, plaire aux parents ou d'imiter un autre enfant. Il convient, me semble-t-il, d'y aller doucement avec sagesse, discerner au cas par cas. En tout cas, l'apôtre Paul s'attend à ce qu'il y ait des enfants convertis dans l'Église, au sein de l'Église. Et nous-mêmes, nous devons nous y attendre et être sensibles à leur foi grandissante. Paul dit à ses enfants et à tous les enfants qui sont là à l'Église qu'ils ont à obéir leurs parents. Alors ce mot est fort. Beaucoup plus fort que le mot que nous avons rencontré la semaine dernière, ce mot « soumission » au sein du mariage. « Obéissance » est un mot beaucoup plus fort. Nous vivons une société assez libertaire, où la discipline, l'obéissance ne sont pas vraiment de rigueur. Et Paul n'a pas honte de dire clairement aux enfants que servir le Seigneur Jésus implique l'obéissance aux parents. Alors pourquoi ? Il dit d'abord que c'est juste. Verset 1, car cela est juste. Tout le monde, toute culture reconnaît cela. C'est une loi de la création. Les enfants obéissent à leurs parents. Ce n'est pas aux parents d'obéir à leurs enfants. C'est le juste ordre des choses. Ensuite, Paul les rappelle que la loi de l'Ancien Testament l'a dit. Il cite le cinquième des 10 commandements. Il leur dit que ce commandement vient avec une promesse. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. C'est pour obéir à Dieu d'abord, mais c'est aussi pour le bien de l'enfant, pour le bonheur et pour la longévité de vie. Alors comment comprendre cela? À l'époque de Moïse, lorsque cette loi leur a été donnée, cette promesse s'appliquait à la vie dans la terre promise, Israël. C'est une promesse très matérielle. Et je pense que Paul est en train de nous montrer par cette loi un principe de sagesse. Celui qui obéit à ses parents est béni. C'est un enfant sage. Et le sage sait vivre dans la création que Dieu nous a donnée. C'est quelqu'un qui sait négocier les hauts et les bas de la vie. En quelque sorte, cet enfant ira loin. Il est bien parti. Et bien sûr, au verset 1, Paul avait ajouté la petite phrase « dans le Seigneur ». Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur. Et cette obéissance est façonnée par la relation de l'enfant à Jésus-Christ. En obéissant à ses parents, c'est un acte d'obéissance envers le Seigneur. Les parents sont donnés à l'enfant dans son enfance un peu comme des seigneurs, même si le Seigneur ultime est toujours le Seigneur Jésus-Christ. En honorant ses parents, il honore son Seigneur qui est aux cieux. La parole change profondément son optique. Le Seigneur qui l'a ressuscité, rendu à la vie cet enfant, qui l'a sauvé de la rébellion par la grâce seule, au moyen de la foi seule, lui a donné une nouvelle optique. Bien sûr, si ses parents l'empêchent d'adorer le Seigneur, son allégeance première est envers le Seigneur, c'est clair. Mais il ne faut pas chercher trop rapidement des exceptions à cette règle. Car de manière très générale, son obéissance est bienséante, juste et bienfaisante. C'est un acte d'obéissance envers le Seigneur lui-même. Alors, on est un enfant jusqu'à quel âge? Le passage ne le dit pas. Mais toute culture reconnaît un âge à partir duquel un enfant est majeur. Ou un enfant n'est plus un enfant. Il est libre de poursuivre ses propres choix. Chez nous, c'est 18 ans ou c'est 16 ans pour certains choix. Il convient de respecter cela et vivre pour le Seigneur dans notre culture. Et même au-delà de cet âge-là, il est toujours juste, bienséant, bienfaisant d'honorer nos parents. C'est quelque chose qui n'est pas forcément facile pour nous ici en Occident. On vit des vies très indépendantes, Mais on ne peut pas prétendre servir le Seigneur en méprisant nos parents ou méprisant nos parents dans leur vieillesse, par exemple. Alors, que dit l'apôtre Paul aux parents? Alors, le texte parle des pères, mais les experts linguistiques me disent que c'est légitime de penser que Paul s'adresse aux parents, les deux. Même si nous avons vu la semaine dernière que le mari est le chef de sa femme et aussi, par extension, chef de sa famille, il n'est pas à dédaigner ou à délaisser ce rôle. Alors l'apôtre Paul ne met pas l'accent sur l'obéissance de l'enfant, mais sur les responsabilités des parents. Dans une culture gréco-romaine, où les parents et surtout les pères avaient beaucoup d'autorité, étaient assez autoritaires, l'apôtre Paul est étonnamment porté sur le fait que les parents doivent restreindre leur autorité. Il dit au verset 4, « Quant à vous, pères, parents, n'irritez pas vos enfants. » Dans un passage parallèle dans l'Épître aux Colossiens, Paul dit « N'exaspérez pas vos enfants. » Il les demande de ne pas abuser de leur autorité. Paul reconnaît la fragilité, la faiblesse des enfants. Il s'agit de ne pas les briser dans leur personnalité et de cesser d'être dur, cruel ou d'agir d'une manière qui est injuste ou inéquitable. Alors, les enfants sont très, très portés sur ce qui est juste ou ce qui est injuste. Souvent, je trouve qu'ils manipulent un peu en disant « Ah, ce n'est pas juste. Mon copain, il a eu un téléphone portable à Noël, mais pourquoi pas moi, ce n'est pas juste. » Alors, il ne convient pas de céder au chantage des enfants, mais quand même d'être véritablement juste. Et lorsqu'on punit, lorsqu'il le faut, de le faire avec justesse, sagesse, avec modération, et pas de manière arbitraire ou colérique. Paul enchaîne en disant aux parents que le Seigneur, en leur donnant des enfants, leur a confié une lourde charge. Paul les invite à les élever, je cite, « en leur donnant une éducation et des avertissements » qui viennent du Seigneur. Le Seigneur Jésus, juste avant de retourner chez son Père, auprès de son Père, a dit aux disciples de faire des disciples de toute nation. C'est ce qu'on appelle la Grande Commission. Et Paul, ici, donne une application de son enseignement-là. Les parents chrétiens élèvent leurs enfants dans le Seigneur. Oui, ils élèvent leurs enfants pour faire face à la vie en général, à devenir des hommes, des femmes, des maris, des épouses, des citoyens qui savent aborder les hauts et les bas de la vie avec sagesse, avec droiture, avec justesse, ainsi de suite. Mais de manière ultime, les parents chrétiens préparent leurs enfants pour toute la vie, y compris la vie éternelle, en les élevant dans la foi, en leur expliquant l'Évangile, ce que cela veut dire de se repentir et de mettre sa foi en Jésus-Christ. Non pas comme un seul événement spectaculaire à venir, à l'avenir, mais comme un modèle de la vie chrétienne, de la vie quotidienne. En fait, cette éducation chrétienne, cette discipline chrétienne est façonnée par le Seigneur lui-même, celui qui est le Seigneur de tout l'univers, mais aussi le Sauveur de quiconque met sa foi en lui. Un enfant a besoin de le savoir et de le vivre de manière quotidienne. Il faut bien sûr de la sagesse et de la douceur. Il ne s'agit pas de briser un enfant ou de maîtriser sa volonté. Il s'agit de le conduire jour après jour, au fil des années, avec douceur, avec sagesse, au Seigneur qui est mort pour ses péchés, pour les péchés de l'enfant. Et au Seigneur qui seul, il n'y a que lui qui peut changer les cœurs. Il s'agit de lui donner à l'enfant la vérité de l'Évangile. La vérité selon laquelle il y a un Seigneur qui est également un Sauveur. Alors les expressions, on entend parfois l'endoctrinement ou le lavage de cerveau. C'est vrai que ces termes, à juste titre d'ailleurs, font peur. Communiquent quelque chose de néfaste et ce n'est pas ce qu'on veut faire. La foi chrétienne n'est pas une foi aveugle ou une foi aveuglissante, mais c'est une foi vraiment raisonnable. Tout comme les adultes, les enfants ont besoin de voir que cela est vrai. Ils ont besoin de penser, ils ont besoin de réfléchir, ils ont besoin de questionner, d'avoir l'espace de questionner. C'est pour ça que la sagesse et la douceur sont de rigueur. C'est absurde de se dire « je resterai neutre et l'enfant choisira ». Bien sûr, l'enfant choisira, donc il est un être humain à part entière, mais il a besoin de savoir la vérité. On ne dit pas, je resterai neutre, l'enfant peut choisir lui-même s'il veut mettre sa main dans le feu ou pas, s'il veut traverser la rue sans regarder à droite et à gauche ou pas. Qu'on le veuille ou non, la neutralité n'existe pas. En nous abstenant de dire que quelque chose est vrai, sans le savoir, nous établissons une autre vérité. Nous semons le doute et nous communiquons qu'autre chose est plus important que l'Évangile. Et le chrétien, il sait qu'il n'y a rien qui est plus important que l'Évangile. Rien qui est plus important que de savoir que le Seigneur est le Seigneur de l'univers et il aime cet enfant. Et il veut faire du bien à cet enfant. Et il peut faire du bien à cet enfant. Oh, bien sûr, chaque enfant ne suivra pas le Seigneur. C'est le Seigneur qui reste souverain. Nous, on les conduit à lui, à la grâce, au pied de la croix. On prie pour eux. On essaie de leur montrer à quoi la vie chrétienne ressemble en étant un modèle de la foi. Mais c'est le Seigneur qui fait le reste. Nous ne pouvons pas faire plus que ça. Nous devons lui faire confiance. L'éducation chrétienne est une joie parce qu'il s'agit de donner le meilleur à son enfant, de le conduire doucement, sagement, à vivre pour Jésus-Christ, à lui faire confiance, à recevoir cette même grâce que nous avons goûtée nous-mêmes. Paul ne parle pas ici de l'éducation nationale ou de l'école du dimanche, ou du catéchisme. Ces choses sont très bien, mais il dit qu'il incombe en premier lieu aux parents d'élever leurs enfants dans la foi, dans le Seigneur. On peut profiter de l'éducation nationale, on peut profiter de l'école du dimanche, le catéchisme à l'église, mais en le faisant, on ne se débarrasse pas de notre responsabilité si importante d'élever nos propres enfants dans la foi. Alors si vous avez des enfants, ou si vous en avez un jour, c'est le Seigneur qui vous les a confiés, qui vous les aura confiés. Il vous donne cette tâche si privilégiée de les préparer pour la vie actuelle, pour la vie à venir, à être des adultes qui connaissent et qui aiment le Seigneur. Alors on peut vraiment prier pour les enfants pour les parents de cette église. C'est vraiment pas une tâche facile. Et parents, je vous invite à vous parler entre vous, à vous parler les uns aux autres. Comment faire, peut-être demander aux parents plus âgés, profiter de la sagesse. Soutenons également l'école du dimanche, donc avec Linda qui son équipe qui fait un super travail. Et prions également pour ces enfants, afin qu'ils rencontrent le Seigneur dès plus jeune âge. C'est vraiment super d'entendre les témoignages d'enfants de chrétiens qui peuvent dire « En fait, je n'ai jamais vraiment connu un jour, du moins pas de manière consciente, où je n'ai pas connu le Seigneur Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. » Parfois, on s'attend à ce qui est toujours des témoignages spectaculaires. Mais en fait, c'est un enfant peut dire « Voilà, je n'ai jamais connu un jour où Jésus n'était pas mon Seigneur et mon Sauveur. » C'est vraiment la preuve que cet enfant a baigné dans l'évangile de la grâce dès son enfance. Alors passons à cette deuxième application, servez le Seigneur au travail. Alors bien sûr, ce passage suscite bien des questions sur l'esclavage et comment le Nouveau Testament parle de ce sujet épineux. On peut glaner plein de détails sur comment les apôtres répondaient à cette institution terrible qui nie en bloc le fait que tout homme est créé à l'image de Dieu et que ça ne peut jamais être bon, une bonne chose pour un être humain d'appartenir à un autre être humain, comme s'il était son bien propre. Alors, l'esclavage à l'époque de Paul était une institution très variée. Alors, parfois, les esclaves étaient très durement traités très durement et parfois, ils avaient des positions très privilégiées dans la société. C'était une institution très variée. Il y avait énormément d'esclaves. Parfois, dans certaines villes, il y avait plus d'esclaves que d'hommes libres. Ça faisait vraiment partie de la situation sociale et économique de l'époque. Le souci de Paul n'est pas tant de militer contre cette institution très variée, mais d'aider chacun, qu'il soit esclave ou maître, de vivre sa situation actuelle d'une manière façonnée par sa nouvelle foi, façonnée par la grâce et façonnée par son allégeance à Jésus-Christ. Et ce but-là est le but que Paul a pour chacun de nos vies, pour nos vies de famille et aussi pour nos vies professionnelles. Il n'y a aucun aspect de notre vie qui n'est pas vécu sous le regard bienveillant de notre Seigneur. Mais bon, on doit quand même se poser la question de si on peut appliquer ce passage à nos vies professionnelles. Après tout, nous ne sommes ni des maîtres ni des esclaves. Fort heureusement, l'esclavage a été aboli. Je pense cependant que ce passage a énormément de sagesse à nous donner pour nos vies professionnelles, pour nous aider à vivre sous la Seigneurie de Jésus-Christ sur le lieu de travail. Jusqu'à un certain point, il nous aide à concevoir comment être un employé et comment être un employeur, comment être un équipier ou comment être un chef d'équipe au travail, d'une manière qui centre nos vies sur Jésus-Christ. Alors Paul parle beaucoup plus aux esclaves qu'aux maîtres. Encore une fois, comme pour les enfants, on peut noter que Paul passe le temps, il prend le temps de s'adresser la parole aux esclaves. Dans la société, ces esclaves étaient vraiment en bas de l'échelle sociale. Mais dans l'Église, il n'y avait pas de distinction à faire, pas de distinction sociale à faire. Nous sommes frères et sœurs. Paul dit ailleurs, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Alors la foi chrétienne n'oblitère pas ces différences. L'esclave était toujours un esclave, un maître était toujours un maître, un homme était toujours un homme, une femme était toujours une femme, c'est toujours le cas. Mais de manière fondamentale, devant Dieu, aux yeux de Dieu, ils sont des égaux. En Dieu, il n'y a pas d'ombre de partialité. Et il faut que nous veillions à être impartiaux, nous aussi, à l'Église. Personne n'est supérieur ou inférieur, nous sommes tous égaux devant Dieu. Et Paul, dans ce passage, veut transformer l'optique de l'esclave. Et en quelque sorte, Paul veut libérer l'esclave. Il le libère en l'attachant à son vrai maître, Jésus-Christ. Ça, c'est toute l'ironie de la foi chrétienne. On devient véritablement libre en devenant l'esclave de Jésus-Christ. C'est ironique, en quelque sorte, mais c'est une très bonne nouvelle. Alors comment est-ce que Paul explique cette libération? Le verset 5 nous dit « Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et profond respect, avec sincérité ou simplicité de cœur, comme à Christ. » Il s'agit de réaliser que l'ultime maître est Jésus-Christ. Et lorsque l'esclave obéit à son maître humain, il le fait pour Jésus, envers Jésus, parce qu'il appartient à Jésus. Son service, son travail est fait pour le Seigneur. Le verset 7 le dit très clairement, « Servez-les, donc servez ses maîtres, avec bonne volonté, comme si vous serviez le Seigneur et non des hommes. » Alors l'employé n'est pas un esclave, mais en même temps, contractuellement, et c'est vrai, il est libre de quitter ce contrat, contractuellement, il doit du travail à son employeur. Et on le sait bien, le travail n'est pas toujours facile. Demain, c'est lundi, c'est le début d'une nouvelle semaine. Tout travail a des côtés pénibles, frustrants, durs, répétitifs, car le travail humain, qui est pourtant un bon don de Dieu dans la création, a été touché de plein fouet par la rébellion de l'homme au début de la création, cette rébellion contre son Créateur. Le travail est donc dur. Mais on voit aussi pour l'enfant de Dieu racheté, pardonné, que sa perspective sur le travail a été radicalement changée. Notre travail est quelque chose que nous faisons au Seigneur. C'est lui notre vrai chef. Cela valorise énormément le travail que nous allons faire demain et après-demain. Il ne faut pas tomber non plus dans le piège inverse où on fait de notre travail une idole, où on peut vraiment nous donner à 100% jusqu'au point de ne plus passer de temps avec nos familles ou de ne plus nous reposer ou simplement nous livrer à nos ambitions. Ce n'est pas ça ce qu'il veut dire. Mais simplement qu'on peut honorer Dieu, on peut honorer le Seigneur en travaillant pour lui. Demain matin, votre chef, si vous en avez un, au bureau, à l'usine, à l'école, ben non, c'est les vacances scolaires, va vous demander quelque chose. Il va vous demander peut-être de faire des photocopies, de faire fonctionner des machines, de passer des appels à écrire des emails, à venir aux réunions de planning, peut-être un peu ennuyeuses, et ainsi de suite. Mais derrière ce chef se trouve un autre, celui qui vous a créé et qui vous a recréé, un chef qui vous aime et qui vous a rendu à la vie par la grâce. Et demain, travaillez pour lui. Travaillez pour vos chefs humains comme si vous travailliez pour le Seigneur. Et ça, c'est la voie de la liberté. Et on voit cette liberté au verset 6. « Ne le faites pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais obéissez comme des serviteurs de Christ qui font de tout leur cœur la volonté de Dieu. » Ça nous libère de ce désir de simplement plaire aux hommes, de faire des choses juste pour gagner l'approbation de nos chefs. Ça nous libère pour bien travailler, que nos chefs le voient ou non, parce que nous travaillons pour le vrai chef, le chef ultime, Jésus, qui est à nos côtés, qui règne de manière suprême sur l'univers et qui nous a aimés au point de donner sa vie pour nous. Alors, il y a même beaucoup d'applications ici pour le pasteur. Le pasteur est souvent appelé à faire des choses publiquement, prédications comme ce matin, des études bibliques et ainsi de suite. Mais qu'en est-il du travail qui n'est pas vu, qui est moins en vue? La prière, par exemple, ou les visites. Lui aussi doit travailler pour le Seigneur et non pas simplement pour plaire aux hommes. Pas toujours facile. Quand nous faisons face à l'injustice au travail, quand ça nous semble dur, trop dur. Et pour les esclaves, à l'époque de Paul, ça a dû être très très dur parfois. Parce que cette nouvelle optique où on vit, on travaille pour le Seigneur, ça nous libère du cynisme, d'une attitude râleuse, d'un esprit de critique acerbe. Parce que nous travaillons pour le Seigneur. Un Seigneur qui est bon, qui est juste, qui est éternel. Il y a une motivation de plus aussi. Au verset 8, nous lisons « Sachant que chacun, esclave ou homme libre, recevra du Seigneur le bien qu'il aura lui-même fait. » C'est le Seigneur qui récompense le bien qui est fait, le travail qui a été fait pour lui. Pour l'esclave qui n'avait pas de salaire, ça a dû être vraiment une nouvelle réjouissante. Mais pour le chrétien de notre époque, c'est puissant aussi. Le travail qui n'est pas vu, notre attitude de cœur, n'est pas oublié par Dieu. Et l'apôtre Paul demande au maître de faire ce même bien. Quant à vous, maître, donc verset 9, agissez de même envers eux et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre, est dans le ciel, et que devant lui, il n'y a pas de favoritisme ou de partialité. Il leur demande d'avoir cette même optique centrée sur Jésus-Christ, de servir d'abord le Seigneur et de chercher le bien de ses esclaves, à ne pas abuser de leur autorité parce qu'ils ont le même Seigneur et que devant ce Seigneur, il n'y a pas de favoritisme. Il n'y a pas de favoritisme parce que l'esclave et le maître sont des égaux devant Dieu, tous les deux créés à son image. Alors si vous avez des employés ou si vous êtes le chef de votre section au travail, peut-être le prof à l'école avec des classes d'élèves, ceux que nous dirigeons sont créés à l'image de Dieu. Aux yeux de Dieu, nous ne sommes pas supérieurs à ces personnes. Cherchez donc leur bien. Travaillez pour le Seigneur en cherchant leur bien, même quand ça vous coûte quelque chose, sachant que le bien que vous faites sera largement récompensé par le Seigneur. Alors terminons. J'espère que c'est clair pour nous tous que notre relation avec Jésus a tout changé dans nos vies. Dans nos vies de famille, dans nos vies professionnelles, dans la vie tout court. Parce que nous avons un Seigneur qui est non seulement le Seigneur de l'univers, mais le Seigneur qui nous a montré sa grâce, qui nous aime, qui est en train de nous changer. Chaque aspect de notre vie doit être soumis à sa Seigneurie, de manière joyeuse, de manière libérée. Alors comment vivre de manière digne de cet appel? La vie chrétienne n'est pas une longue liste de choses à faire. Il ne s'agit pas de mettre en pratique un code, comme si la Bible n'était qu'un simple manuel d'instruction, mais de connaître un homme, Jésus-Christ, de le suivre comme notre souverain divin. Jésus est l'incarnation de ce que signifie aimer Dieu de tout son cœur et d'aimer son prochain comme soi-même. Aucun domaine de la vie n'est ignoré, car adorer Dieu en suivant Jésus touche notre vie tout entière. Pour celui qui a reçu l'amour de Dieu, donc on a vu ça dans la première moitié de cet épître, tout change. La vie de travail, de repos, les amitiés, la vie de famille, la sexualité, la moralité, l'argent, les loisirs, le langage, notre attitude envers notre prochain, notre attitude envers nos collègues. Bref, tout a été changé. Tout doit être façonné par cette nouvelle relation avec le Seigneur Jésus. Exaltons-le dans nos cœurs ce matin, mais aussi tout au long de la semaine. Et en faisant cela, nous vivrons pour lui, en famille et au travail. Je vous invite à la prière. Prions. Notre bon Père Céleste, merci de ce que tu nous as donné Jésus comme chef, comme roi exalté. Et ce roi nous a rendus à la vie avec lui par la grâce, parce qu'il a fait à la croix pour nous. Et Père, nous voulons te demander de nous aider à vivre pour lui cette semaine. Change notre perspective par l'Évangile, par notre appartenance à Jésus. Fais en sorte que cette nouvelle réalité de notre appartenance à Jésus change notre perspective sur notre famille, sur notre lieu de travail, nos relations au travail. Donne-nous la joie de te servir, toi, cette semaine. Aide-nous à garder nos yeux fixés sur toi, à nous réjouir en toi, et ainsi à avoir une certaine joie à te suivre en mettant les besoins des autres avant les nôtres. Nous te demandons ces choses au nom de Jésus. Amen.